Bonjour à tous. Je vais vous présenter les travaux qui sont menés en système biologique à l'INRAE afin de définir des pistes d'amélioration de la survie des porcelets. Et ces travaux s'appuient sur l'étude des interactions entre la truie et les porcelets et donc incluent la prise en compte de la capacité d'adaptation des truies. Donc, ce sont des recherches que je mène dans le cadre dans le département de génétique animale de l'INRA et en collaboration avec des collègues du département FAS. Alors, la mortalité des porcelets sous la mer est une problématique majeure pour la filière biologique. On statue 30-35% de pertes sous la mer, que ce soit en bâtiment comme en plein air. Et la difficulté relève aussi du fait que, selon le cahier des charges, il convient d'élever des truies le plus librement possible, donc idéalement en plein air, ou sinon libres dans leur case de mise bas, ce qui conduit à augmenter le risque d'écrasement des porcelets par leur mère. Donc l'enjeu, quel est-il? C'est d'arriver à trouver des solutions pour améliorer la survie des porcelets, tout en promouvant l'élevage de truies dans des systèmes plus libres. Donc la stratégie que l'on a choisie est une stratégie de type une démarche englobante où on suppose que l'environnement, donc le logement et la génétique sont des leviers d'action qu'il convient de combiner pour améliorer à la fois la performance des truies et donc la performance des porcelets. Et pour aborder ces choses, nous avons recours à une approche multicaractère où on inclut les qualités maternelles, la capacité d'adaptation des truies et on prend en compte le comportement des animaux. Alors d'abord, quelques définitions. Les qualités maternelles, c'est l'ensemble des caractéristiques des truies qui vont influencer sa survie et sa croissance, la survie et la croissance de sa portée jusqu'au sevrage. Dans toute population, toute race, toute lignée, il y a de la variabilité en termes de qualité maternelle qui fait qu'on va qualifier les truies de plus ou moins maternelles. Aussi, les truies peuvent être plus ou moins sensibles à leur environnement et notamment... Donc elles sont sensibles au logement dans lequel elles évoluent et aussi à des perturbations qui peuvent survenir dans leur environnement. Et là aussi, on a des truies qui présentent une capacité d'adaptation plus ou moins bonne. Et les solutions que l'on cherche à mettre en évidence ne relèvent pas uniquement de la truie, mais aussi du porcelet, dont le potentiel de survie est défini à la fois par des effets maternels liés à la truie, mais aussi des effets paternels. Le logement des truies, il est connu pour avoir une incidence sur la mortalité des porcelets. En effet, dans le cas de truies plus libres, on va exacerber le comportement maternel et les relations avec les porcelets. En contrepartie, notamment sur les truies qui ont des problèmes, des difficultés à se mouvoir ou à se coucher, on risque d'aggraver le risque d'écrasement des porcelets. Il faut savoir que le choix de la génétique, pour des conditions biologiques, il n'est pas trivial. Classiquement, ce qui est fait, c'est un recours à des truies croisées, des truies assez rustiques, de type race locale, par exemple. Et parce que les conditions biologiques ne se prêtent pas au recours à l'adoption et à la gestion de porcelets surnuméraires des races hyper prolifiques, ces races hyper prolifiques sont souvent boudées. Et ce que nous avons décidé de faire dans ces travaux, c'est justement d'étudier le cas d'une population hyperprolifique, le large white, et d'évaluer dans quelle mesure elle pourrait être utilisée dans des conditions biologiques. Alors, le dispositif de recherche, il a été établi à la station expérimentale INRAE de Port-Ganic. Donc, comme je vous disais, une population large white, issue du cheptel national, donc issue de mères intensément sélectionnées, notamment sur l'hyperprolificité, pour la prolificité et la croissance maigre. Et ce que nous avons cherché à faire, c'est comparer des couples de sœurs inséminées avec le même VERA. Donc, nous avons mis une sœur en condition libre, à savoir qu'elle est libre de son entrée en maternité jusqu'au sevrage qui a lieu à 49 jours, post-mise bas. Et on l'a comparée à sa sœur élevée 90% libre, à savoir bloquée temporairement pendant quelques jours autour de la mise bas. Et donc, ici, la problématique première que nous avons traitée, c'était l'effet du logement, donc à génétique fixe. Donc, à savoir, est-ce qu'il y a un effet du logement en partie bloqué ou libre sur la performance de survie des porcelets? Alors, ces couples de sœurs, ils ont été étudiés sur leurs trois premières rangs de portée chacune. Donc, comme je vous disais, avec une sœur dans chaque système. En rang 1, on a fait des inséminations avec des verras piétrins. Et du coup, on produit des porcelets croisés. Il y avait possibilité d'égaliser les portées par des adoptions. Sur les rangs 2 et 3, on a poussé plus loin la comparaison en inséminant les truies, cette fois avec des verras large white. Donc, elles produisaient des porcelets pure large white. Et pour évaluer la capacité d'investissement de la truie dans la production de porcelets, on n'a pas souhaité que les adoptions soient possibles. Donc, une truie avait à élever tous les porcelets auxquels elle donnait naissance. Donc, je vous présente les résultats qui concernent les qualités maternelles. Ici, vous avez représenté la production numérique en fonction du rang de portée et du logement. Alors, si on regarde le graphique de gauche, voilà, 1B, c'est pour rang 1, truie bloquée. 1L, rang 1, les sœurs en libre. Et puis après, la même chose en rang 2 et la même chose en rang 3. Donc, tous les résultats que je vais vous présenter, ils insistent essentiellement sur la comparaison libre-bloqué intra-rang de portée. Et donc, vous avez représenté le nombre de sevrés par la truie en bleu, le nombre de nez vivants en orange et le nombre de nez totaux en gris. Alors, ce que l'on observe de façon globale, c'est que la prolificité augmente entre la première portée et la troisième portée. Le nombre de porcelets sevrés, il est parfois assez faible, inférieur à 10 dans les cas de 1B, 2B et 2L. Et il était supérieur à 11 sur les trois autres catégories. Et on a observé que les truies libres, en fait, sevraient plus de porcelets en rang 1, mais la différence disparaissait ensuite. Et en termes de taux de survie des porcelets sous leur mère, vous avez ici le taux de survie en bleu, en rouge à 48 heures post-mise bas, donc 2 jours après la mise bas. On voit qu'il est assez élevé, il varie entre 75 et 88%. Et le taux de survie jusqu'au sevrage, lui, est plus faible, il varie entre 66 et 75%. Donc, on a des pertes qui sont quand même substantielles pendant la lactation. Et on observe donc sur le rang 3 que les truies libres ont un taux de survie inférieur aux truies bloquées. Donc, c'est sur ce rang de portée qu'on va dans le sens où le fait de bloquer les truies peut avoir un effet favorable sur la survie des porcelets. Ici, vous avez représenté le taux de survie de la portée en fonction du nombre de porcelets présents dans la portée, le nombre de nez vivants. Alors, en fait, cette représentation, elle permet d'adresser la question des limites biologiques de la truie dans l'investissement de ces porcelets. Vous voyez que la distribution des données est assez hétérogène et semblable que les truies soient libres ou bloquées. Donc, on a quand même une tendance à ce que le taux de survie diminue avec la taille de la portée. Et on constate de façon particulière qu'on a une grande variabilité entre truies pour un niveau de prolificité donné et une diminution au-delà de 17 porcelets. Donc, comme on disait, en lien avec les limites biologiques de la truie qui peuvent relever de son nombre de tétines fonctionnelles, sa capacité à produire du colostrum ou du lait. Alors ensuite, ce qui nous intéresse, c'est la distribution de la mortalité des porcelets, la cinétique des pertes en porcelets, et d'évaluer s'il y a un effet du blocage sur cette cinétique. Donc ce que j'ai représenté, c'est le nombre de porcelets morts, tous les effectifs cumulés, en fonction de l'écart de temps par rapport à la libération des truies bloquées, pour rappel, qui a lieu à 4 jours après la mise bas. Et cette libération, elle est mise en évidence par le point zéro sur l'axe des abscisses. On ne voit pas bien les couleurs. Donc, vous avez la représentation à gauche pour les truies bloquées, à droite pour les truies libres. Et ce que l'on observe, en fait, c'est que sur les truies libres, on a beaucoup des pertes qui se produisent autour de la mise bas, à peu près 4 jours avant la libération des truies bloquées. Donc, l'essentiel des pertes a lieu de façon précoce et il y en a peu par la suite. Là, sur les truies bloquées, on a moins de pertes autour de la mise bas et des pertes substantielles après la libération des truies. Donc, il semblerait
en fait que dans un cas comme dans l'autre, on finisse par avoir un ajustement, une taille de portée qui s'aligne avec la capacité d'investissement détruit, mais à des moments différents. Donc, après la libération, chez les truies bloquées, du fait de pertes supplémentaires. Et pour pousser plus loin la comparaison, donc on a essayé de comprendre si l'essentiel de ces différences de pertes entre truies libres et truies bloquées était lié à de l'écrasement, essentiellement par les truies. Donc, toutes les causes, la cause de mort de chaque porcelet a été enregistrée. Sur les quatre valeurs du bas, on va pas trop le haut, avant la libération des truies bloquées, vous avez les nombres d'écrasés, de porcelets qui sont morts de faim, de morts-nés, morts autre cause que ces trois-là. Et en bleu clair, ça ne se voit pas beaucoup, mais j'ai rajouté les morts qui ont lieu après, donc, et d'ici 10 jours. On voit qu'il y a la majorité des pertes qui ont donc lieu en début de lactation, sur ces quatre premières catégories. Et ce que l'on observe aussi, c'est que en rang 3, on a des pertes par écrasement qui sont plus importantes sur les truies libres que sur les truies bloquées. Donc là, à nouveau, on a le sentiment que le fait de bloquer les truies limite les pertes par écrasement. On a des pertes, donc, comme on disait, plus importantes sur les truies libres. Et en rang 2, on avait aussi plus de pertes par écrasement chez les truies libres que chez les truies bloquées. Inversement, on avait plus de pertes chez les truies bloquées qui relèvent de porcelets qui meurent de faim. Donc on voit plus de difficultés à élever ces porcelets. Et ceci est à mettre en relation en fait, avec le fait, souvenez-vous, que la taille de portée des truies bloquées en rang 2 était largement supérieure à celle des truies libres, avec deux porcelets d'écart entre les deux. Et en clair, donc, on a des différences substantielles de pertes d'ici 10 jours, un peu plus élevées donc, chez les truies bloquées. Donc on observe comme un effet à retardement et des pertes qui finissent par arriver. Alors, la difficulté d'interprétation de ces résultats, elle relève aussi du fait que la performance d'une truie à un rang de portée donné dépend de ses performances au rang précédent. C'est pour ça qu'il peut être vraiment intéressant de s'intéresser à la stabilité de performance des truies. Donc sur ce graphique, c'est chaque courbe représente les performances d'une truie. J'ai représenté ici le nombre de nés totaux, donc sur les rangs 1, 2, 3. Et donc cette stabilité de performance, elle peut vraiment être un atout pour la durabilité des truies en élevage. Et ce que l'on observe, donc j'ai représenté uniquement quelques cas extrêmes. Donc en foncé, rouge foncé, vert foncé, vous avez les truies respectivement bloquées et libres, qui ont une grande variabilité de performance entre les rangs de portée. Et puis sur les couleurs claires, donc vous avez les truies qui maintiennent un niveau de performance assez stable au fil des rangs de portée. Et donc, l'intérêt qu'on voit, c'est de donner l'avantage à des truies qui ont un bon niveau de performance et qui maintiennent ce niveau de performance de façon stable au fil des lactations. Donc voilà, c'est un peu la stratégie qu'on a décidé de suivre et qu'on va utiliser maintenant, à savoir, et idéalement, de repérer des sœurs, donc en bloqué et libre, qui ont été capables de maintenir une stabilité de performance tout du long de leur production. Au-delà des performances, on s'est aussi demandé si le comportement des truies pouvait être un facteur clé pour l'amélioration et dans quelle mesure. Donc on a mis en place des observations terrain. Les animaliers eux-mêmes réalisaient ces enregistrements avec des fiches et ils ont analysé donc des réactions de la truie à l'entrée dans la loge de mise bas, donc quand elle arrive dans la maternité. Ils ont analysé son comportement maternel la première fois qu'un soigneur intervient pour s'occuper des porcelets post-mise bas. Et ils ont aussi analysé la réaction des truies lorsqu'on enlève les porcelets à 24 heures post-mise bas pour les peser. Donc c'est ce qui peut faire se rapporte à un test de séparation en fait, et ils ont évalué la réponse de la truie au moment où on retire la portée, et puis un moment après, au retour des porcelets, comment elle réagit à nouveau. Et les items comportementaux qu'on mesure, c'est les postures, les vocalisations, la mobilité, à chaque fois mobilité 1-0, l'attention, la protection envers les porcelets, le comportement exploratoire et puis les difficultés d'intervention, donc avec des scores qui sont assez simples. Et donc, c'est des analyses qui sont en cours, mais je vous en présente quelques résultats. On a notamment des résultats au moment où les porcelets reviennent avec la truie après la séparation, où on a analysé le comportement protecteur des truies vis-à-vis de leurs porcelets. Et on avait mis en évidence des différences marquées entre les deux groupes bloqués et libres. Donc, les truies libres présentant un comportement beaucoup plus protecteur. Et là où ça devient intéressant, c'est d'essayer d'expliquer le taux de survie des porcelets en fonction de ces comportements et du logement des truies. Donc, quand elles réalisent ce comportement, c'est la valeur 1 et 0 quand elles ne le réalisent pas. Sur le graphique de gauche, donc, vous voyez ici, on a les truies bloquées. Et on voit que celles qui ont un comportement protecteur au moment où on ramène les porcelets ont un taux de survie global sur la lactation qui va être supérieur à celles qui ne l'expriment pas. En revanche, l'expression de ce comportement qui était élevé chez les truies libres, qu'il soit réalisé ou pas, a moins d'incidence sur la survie. Et puis quand on peut faire la même chose avec d'autres comportements, notamment la mobilité des truies, comment elles bougent quand on ramène les porcelets. Et là, on voit que la réponse est la même chez les truies bloquées et libres et intéressante à potentiellement exploiter pour améliorer la survie. On voit que si on repère des truies qui sont plus mobiles, et ben c'est des truies qui, à la fin de la lactation, vont aboutir à un meilleur taux de survie de leurs petits. Donc, ça donne des indications, déjà des premières indications sur les truies qui convient de retenir et parmi lesquelles il est peut-être plus judicieux de choisir des femelles, des jeunes femelles comme futures reproductrices. Donc on donnera l'avantage aux truies qui sont plus réactives et actives. Mais après, la question, c'est de se dire qu'ici, on a fait des observations ponctuelles et dans quelle mesure ces observations ponctuelles reflètent vraiment le tempérament maternel de la truie dans son ensemble. Et pour ce faire, on a développé des méthodes de travail pour une caractérisation fine du comportement maternel des truies. Donc, en fait, on s'en réfère à des enregistrements vidéo de l'entrée en maternité jusqu'à 10 jours après la mise bas. Et on a mis au point des algorithmes de développement pour analyser de façon automatisée et sur du long terme le comportement des truies. Donc, on recourt à l'intelligence artificielle. Et le comportement maternel clé qu'on peut essayer de rechercher, c'est des truies qui construisent un nid avant la mise bas, qui sont calmes pendant le processus de mise bas, qui reprennent ensuite progressivement une activité normale et qui établissent bien de façon correcte le lien avec leur progéniture. Et notre idée, en fait, donc avec ces algorithmes, on en est actuellement à détecter de façon automatisée 5 portées différentes, le fait que la truie soit en train d'allaiter, de boire, de manger, et on espère prochainement pouvoir aussi caractériser un peu la vitalité des porcelets sous leur mère. Donc c'est des développements qui seront aussi mis à disposition d'un grand nombre, de plus large nombre possible de personnes. Et on peut se dire qu'à partir de ce type d'algorithme, on peut mettre en place des outils d'aide à la décision pour intervenir sur des portées qui présentent des problèmes de vitalité. Donc, in fine, notre algorithme, il est établi sur des truies bloquées et on va le développer, j'espère, prochainement sur des truies libres. Et l'idée, c'est d'exploiter aussi cette variabilité intrapopulation en termes de comportement maternel, avec une caractérisation fine. Et pour conclure, les pertes en porcelet en système biologique sont importantes et difficiles à gérer. Et cela d'autant plus qu'on a devoir de promouvoir l'expression des comportements naturels dans ces systèmes, donc d'avoir des truies qui sont élevées dans des conditions libres. Les travaux donc, pour accroître le bien-être des porcelets, on voit qu'on doit poursuivre les recherches, ils doivent s'intensifier. La difficulté, c'est qu'on doit aborder ce compromis entre les performances des truies et des porcelets, et aussi les aspects santé et bien-être des animaux. On a dans l'idée qu'on va avoir un apport important de la génétique pour gérer cette problématique. Et c'est notamment pour trouver des solutions pérennes qu'on s'en réfère à la génétique. Actuellement, sur ces mêmes animaux, on est en train de développer une sélection. Donc, je travaille sur une sélection combinée où on va, on sélectionne, on, pardon, on insémine les truies avec de la semence de Vera Large White, améliorateur de la survie des porcelets. Et en même temps, on va travailler pour retenir comme future reproductrice des jeunes femelles qui sont issues de couples de sœurs qui présentaient une production stable et bonne dans les conditions libres et bloquées et un bon comportement maternel. Je vous remercie pour votre attention.